qui est un Père bon pour nos vies. Récemment, je disais à notre église, à Auch, quand je dis récemment, c'était dimanche dernier, que finalement la question n'est pas tant de savoir si nous croyons ou nous ne croyons pas en Dieu, parce qu'il y a des millions de personnes sur cette terre qui croient en Dieu. La question est de savoir en quel Dieu ils croient, et surtout de savoir si ce Dieu-là est bon. Et ce qui fait la différence de notre message, ce qui fait la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous proclamons la bonté de Dieu. Et c'est cette bonté-là qui transforme, c'est cette bonté-là qui guérit, c'est cette bonté-là qui bouleverse nos vies, c'est l'amour de Dieu. Et c'est en cela que l'invitation nous est lancée pour nous ce matin, de venir goûter, sentir que l'Éternel est bon. J'appellerai donc Tom maintenant qui va nous partager sur ce thème et j'aimerais que nous puissions l'encourager.
Ok. Alors effectivement, comme l'a dit Xavier, croyons-nous à la bonté de Dieu. Donc je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on n'y croit pas à cette bonté? Quand on croit finalement à un Dieu, ok, mais la facette bonté n'est pas développée et donc, du coup, quelles sont les conséquences de cela? Tout d'abord, dans le comportement avec les uns et les autres, on peut être distant, on peut être dans une sévérité, une colère, parce que ma foi, on a une méconnaissance aussi de Dieu, du caractère de Dieu. On peut se replier sur soi. On culpabilise. Je pense que c'est un des points particuliers de cela. Quand on ne comprend pas la bonté de Dieu, c'est la culpabilité qui peut être due à diverses raisons. On peut trouver des excuses aussi. Le passé peut être davantage un poids. J'aime bien cette image avec des boulets aux chaînes. Vous voyez, on avance. Vous avez des boulets aux chaînes constamment. Aux pieds, pardon. Des boulets aux chaînes. Des boulets aux pieds, pardon. Savoir si vous écoutez. Mais j'insiste sur le point colère et sévérité. Alors, ce n'est pas le cliché de la sévérité, le gars qui se met, la personne qui se met en colère, qui est violent, tout ça, ce n'est pas dans cela, mais c'est dans notre attitude vis-à-vis d'autrui. On sait qu'on peut être faux, c'est-à-dire vous pouvez être très gentil avec une personne, mais être finalement à l'intérieur, dans le cœur, très faux et un peu hypocrite. Vous voyez, c'est un peu cela aussi, les conséquences. Après, c'est dans une démarche vis-à-vis de Dieu, c'est lui qui nous doit quelque chose. Alors, phrase banale, mais tellement vraie. Finalement, Seigneur, voilà, je n'ai pas compris pourquoi tu agis comme ça, c'est bizarre. Vous voyez, c'est plus Dieu qui doit se remettre en question que moi, quoi. C'est un peu le... Mais c'est vrai. Et ça, c'est une des conséquences, un des symptômes de la méconnaissance ou du manque de révélation de la bonté. Et c'est du vécu. Et donc, nos attentes, nos désirs sont parfois faussés par ça. Nos rêves, notre vision est parfois faussée par ça. On vise trop grand ou trop bas. Et il y a besoin de, que les choses soient... c'est nécessaire que Dieu remette les choses à sa place. Et c'est nécessaire de sortir Dieu du cadre. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être radical. À un moment donné, on ne peut pas se contenter de faire Dieu à notre image. Et il faut se positionner. C'est facile à dire, j'en suis bien conscient. Mais c'est la base et on se doit de faire ça. Et un des leitmotivs pour faire ça, quelque chose qui peut nous booster, c'est de se décentrer de soi-même. Mais là, je vais un peu trop loin, chaque chose en son temps. Donc il faut être radical, il faut se positionner. Et je vous propose de voir ensemble la définition de la repentance. Parce que je pense que ça peut être un des points clés pour pouvoir être radical et se positionner. Et c'est une définition qui était dans la Bible.net, que j'ai découverte il y a 10 jours, et qui m'a vraiment percuté, parce que les points qu'elle évoque sont très intéressants. Je vous lis ça. La repentance, même mot grec que changement d'attitude, désignant littéralement un changement de pensée, il renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Donc la repentance n'est pas seulement... je croyais un peu ça, j'avoue. C'était se pardonner et finalement, l'étape se réaligner avec Dieu n'était pas forcément aboutie. Et pour pouvoir pleinement rentrer dans une repentance, changer d'attitude, être radical, avoir ce nouveau comportement, il est nécessaire de comprendre ce qu'est la bonté de Dieu pour nous. Un des livres qu'on nous a passé au début de Master Commission, c'était sur le cœur du Père. Et deux chapitres étaient sur le caractère, sur son caractère. Et il y était énuméré tous les points de merveilleux et bon de ce qu'est le Père pour nous. Et je vais prendre le temps de les énumérer, vous allez voir. Déjà, la bonté de Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie. Et il est important de la spécifier, de l'attribuer à des points spécifiques dans notre vie. Donc, les caractères du Père. Le Père, déjà, est celui qui nous donne la vie. C'est-à-dire que c'est celui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est celui qui corrige. Relation père-fils, c'est pas évidemment le père fouettard, hop, mais c'est vraiment celui qui nous corrige et il fait ça par amour pour nous. C'est un père généreux. C'est un père protecteur, plein de sagesse. C'est un père d'autorité et de justice. C'est un père humoristique. Yes. C'est un père fort et puissant. C'est un père qui encourage. C'est un père prévoyant. C'est un père qui est attentif et intentionné avec nous. C'est un père qui est rempli d'amour. C'est un père qui est rempli de tendresse, qui nous réconforte et qui nous console. Et c'est un père joyeux et dynamique, patient et qui a de la délicatesse vis-à-vis de nous. Et c'est un père qui communique. Alors je pense qu'il y a beaucoup de points, vous ne les avez pas tous retenus, mais ce que je voulais dire par là et pourquoi je voulais les citer, c'est que dans notre cheminement, dans la compréhension de la bonté, parfois, vous voyez, on comprend la bonté et là, paf, il y a un truc qui nous arrive dans notre vie et on est découragé, on ne se sent pas très bien. Et là, c'est important, et c'est pour ça que c'est important aussi de partager avec ça des amis, avec des amis, de se rappeler le point spécifique de la bonté de Dieu qui se rattache à notre découragement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De bien comprendre que telle facette de la bonté de Dieu peut être une prière, une proclamation face aux défis, face aux péchés, face au découragement. Et c'est d'où la nécessité de cette révélation de Dieu, de Dieu, oui, et de cette bonté de Dieu. Et c'est cela nous permet de prendre, quand on prend conscience de cette bonté, cela nous permet de ne plus être entouré par la crainte, voyez, de la culpabilité que j'ai évoquée tout à l'heure, de la victimisation, du jugement, de ne pas, ça y est, il m'arrive quelque chose, de ne pas se renfermer sur soi, de ne pas s'isoler dans sa chambre. Mais ça permet de, yes, ok Tom, effectivement, t'as chuté, d'être moins sévère avec soi-même, mais tu en parles avec tes amis, tu pries pour ça, tu refuses le découragement, aussi bien pour toi, mais surtout pour les autres. Tu refuses la victimisation, dans les pensées aussi, ça c'est fondamental. Seigneur, je refuse ces pensées, elles sont fausses, je suis fils de Dieu, et toutes ces pensées, je les rends captives à ton obéissance. Et c'est fondamental, et on en a tous. Et voilà. Et donc j'ai évoqué l'importance des relations. du mentor, du collègue, de l'ami intime. Et on a besoin de ce vis-à-vis afin que cela nous permette de mettre des mots sur des choses. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que quand je vous ai cité aussi tous les points du caractère du Père, c'est pour vous encourager à être précis dans vos prières, c'est-à-dire d'être précis dans votre demande, dans la guérison. Et c'est difficile parfois de mettre des mots parce qu'on a les yeux voilés et on ne voit pas à quel point Dieu est bon dans telle circonstance. Alors, on le sait, mais moi, ça a quelque chose qui a percuté dans ma vie personnelle et dans ma relation avec Dieu. C'est l'importance de se considérer faible. Alors, il ne s'agit pas de se flageoler, de se rapetissir, de se dire « Ah non, je suis trop humble, il faut que je sois humble. » Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être bien dans ses bottes. On est fils de Dieu, on a des qualités. Voilà, on a des dons, des talents. Mais le fait de se considérer comme faible et fort en Christ permet, si vous voulez, de rester humble, de rester sur ce chemin de la vérité, de garder aussi à l'idée l'importance de relationner et voilà. Je vais juste vous donner sinon un petit exemple concret d'une démarche. Non, je vais pas le faire, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je vais pas le faire. En tout cas, voilà, je tiens à vous encourager à creuser cela, cette profondeur, le fait que rien n'arrive par hasard. Dieu est bon, Dieu a été bon dans le passé. C'est lui qui guérit les blessures. On dit beaucoup à Master Commission que Dieu était en coulisses. Quand il arrivait ici ou cela dans la vie, Dieu était en coulisses, il était là dans votre chambre, il était là dans la vie professionnelle, il a été là dans la scolarité, il a été là aussi quand vous aviez 5 ans, 8 ans, quand vous avez subi quelque chose de la part de vos parents. Quand vous avez vu des horreurs aussi, des abominations, quand vous avez subi cela, Dieu a été là. Dieu est là dans le présent aussi, il est à côté de vous. J'aime beaucoup cette image de voilà, Dieu me fait un hug, il est là, il me pose la main sur l'épaule. Allez Tom, courage, en ce moment là il est là. Et il est là aussi donc, pour le futur, il sera là, il s'est rempli d'espérance tout cela. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre relation avec lui soit approfondie et que cette bonté ne soit pas un fardeau. On n'est pas dans la religiosité, mais c'est quelque chose de réel, de palpable. Dieu veut nous parler. Et tout cela, finalement, c'est que du bon, c'est que de l'amour, c'est que ce n'est que des trésors et des pépites, des diamants à découvrir. Il s'agit juste pour nous de continuer à ouvrir le coffre et à piocher. Et ce qui est trop bien, c'est que dans sa bonté, Dieu nous révèle des choses au bon moment. Parfois, on prie pour les sujets de prière, ça fait 10 ans. On se dit, mais waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi dans telle circonstance, il n'y a pas un déclic? On peut même se mettre dans la hargne, dans la colère, parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. D'où la nécessité, là aussi, entre autres, dans ce processus de bien relationner, de prier avec des proches. Mais Dieu révèle et agit au bon moment. Vous savez, on l'a tellement entendu, Dieu agit au bon moment, Dieu est bon, qu'on a perdu le goût de cela, le sens de cela. Pourtant, c'est une vérité fondamentale. Donc voilà, je voulais vous encourager à continuer à vous mettre en mouvement, à approfondir cette bonté qui est énorme pour chacun d'entre vous. Et ouais, je vous redis cette phrase pour terminer. Être motivé par l'amour, par la bonté de Dieu. Être entouré par l'amour de Dieu, c'est ce que vous êtes actuellement, et non par la crainte, par la peur. Et Dieu est bon. Yes.
Bonjour. Donc, j'ai un petit peu exposé mon témoignage. Voilà. Donc, je m'appelle Anneline, j'ai 19 ans. Et je suis la deuxième d'une famille de 4 filles. J'ai grandi dans un environnement où j'aimais Dieu et je me sentais aimée de lui. Et quand j'avais 11 ans, ma mère est décédée. Et je me suis retrouvée seule avec mes 3 sœurs. Donc l'aînée avait 16 ans et les 2 petites qui sont jumelles en avaient 7. Donc je me suis retrouvée seule avec mon père et j'ai dû être forte pour eux parce qu'ils avaient du mal à gérer cette situation-là. Et donc du coup, j'ai vraiment dû me retrouver forte et les supporter. Et que être forte, ça impliquait le fait de me renfermer sur moi-même. Donc, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. J'ai commencé à être vraiment timide, réservée. J'ai arrêté d'exprimer mes émotions. Parce que exprimer ses émotions, c'est être faible. Et je devais être forte. Donc, j'ai même décidé d'arrêter de pleurer. Tout simplement parce que pleurer, pour moi, c'était être faible. Et je me suis vraiment blindée pour les porter. Et malgré ça, j'ai toujours été consciente de la bonté de Dieu envers moi. Parce que ma mère avait eu un très bon témoignage. Enfin, jusqu'au bout, elle a été croyant à la bonté de Dieu. Et ça m'a vraiment porté à pousser à croire en sa bonté. Mais au fur et à mesure des années, il y a eu une accumulation d'épreuves où on a vraiment été attaqués dans notre santé. J'avais une petite sœur qui a eu des opérations à plusieurs reprises au niveau des yeux. Les deux ont eu une maladie, elles ont dû être opérées au niveau des hanches. J'avais des problèmes moi-même au niveau des genoux et tout. On a eu des problèmes financiers. Une de mes sœurs supportait très mal psychologiquement la situation. Et il y a eu énormément de décès et de maladies dans mon entourage. Et ça commençait vraiment à s'accumuler et à devenir un vrai poids au bout d'un moment. Jusqu'à l'année dernière où j'ai fait des études où je me suis retrouvée seule chez moi parce que je devais vraiment travailler et je n'allais pas en cours. Et je me suis retrouvée face à moi-même. Et je me suis rendu compte que en fait, j'avais rien pour moi, j'avais vécu à travers mes sœurs et qu'au final, j'avais vécu à travers elles, j'avais pas de passion, j'avais rien, j'avais tout laissé de côté. Et donc voilà, et je me suis rappelée de toutes les épreuves que j'ai eues et enfin, ça devenait vraiment lourd et j'ai commencé à arrêter de prier, à trouver des excuses pour aller de moins en moins à l'église. Et j'ai peu à peu perdu le feu que j'avais en moi. J'essayais quand même de me battre et j'ai fini par faire MC, au final. Mais c'était vraiment une lutte un peu désordonnée. Et j'essaie vraiment de me battre et de me relever. Mais juste avant de partir, une semaine avant de partir, il y a eu le décès d'une personne très proche qui nous avait soutenus pendant toutes nos épreuves. Et en fait, ça m'a vraiment rappelé tout ce qui s'était passé et que j'étais vraiment au bout. Ça m'a vraiment ramené à tous mes vieux démons. Et donc voilà. Et je disais à Dieu, ben Dieu, je ne suis pas Job. je vais pas attendre que tout me tombe dessus. Et voilà. Et franchement, pour moi, à ce moment-là, le seul truc qui m'était pas arrivé, c'était de mourir. Parce que on était passé partout. Et après réflexion, je suis pas passée partout, heureusement. Mais à ce moment-là, c'était vraiment mon état d'esprit. et je vivais vraiment dans la sévérité de Dieu. Et du coup, j'ai commencé à me rebeller contre lui. Bon, je suis pas une vraie rebelle qui se rebelle contre tout le monde, mais avec Dieu, j'étais vraiment dure. Et donc, quand je recevais qu'il me disait de faire quelque chose, ben, je disais non. Je priais pas. Je croyais plus à ce qu'il disait de moi. Et je refusais de croire, de croire au regard qu'il avait sur moi. Je croyais plus en la vision qu'il m'avait donnée, dans l'appel qu'il m'avait donné. Et j'ai vraiment commencé à être vraiment sévère avec moi, avec lui et avec les autres. Et je rappelle au début d'MC, on chantait tout le temps des chansons sur la bonté de Dieu. Et franchement, j'avais pas du tout envie de chanter. Et je chantais pas. J'étais là, je me taisais. Et parfois, je remuais un peu pour faire genre. Mais, je voulais vraiment pas chanter. Non pas parce que je croyais pas qu'il était bon. Parce que en théorie, on avait toujours appris que Dieu il était bon, c'était un Dieu bon, un Dieu d'amour. Mais parce qu'à ce moment-là, je vivais pas sa bonté. Et je voyais pas sa bonté s'exprimer en moi. Et je voyais pas qu'il était bon envers moi. Et voilà. Et au fur et à mesure, les semaines elles sont passées. Et, j'ai vraiment découvert l'amour que Dieu avait pour moi, ce regard bienveillant qu'il avait sur moi. Et d'un moment, je me suis dit, ben, je ne peux plus être rebelle avec Dieu. Je ne peux plus continuer comme ça, à me lamenter. Et voilà, donc, à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à me rappeler toutes les bonnes choses qu'il a fait dans ma vie, parce qu'au final, il n'avait pas fait que des mauvaises choses, quoi. Enfin, il n'avait pas eu que des épreuves. Il a vraiment eu beaucoup de bénédictions. Et on a fait une semaine sur la vision. Et à la fin de cette semaine, il fallait déclarer des choses sur sa vie. Et j'ai vraiment décidé de prendre position à ce moment-là et de me dire que j'ai déclaré que rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu et que je décidais à partir de maintenant de rentrer dans les plans qu'il avait pour moi. Et suite à ça, j'ai commencé à rechanter sa bonté au fur et à mesure. Je chantais, chantais toutes les petites paroles qui... Je veux dire que ça ne va rien, mais tout autour, quoi. Après, j'ai commencé à dire une fois qu'il était bon, puis deux, puis etc., etc. Et au final, au début, je me suis forcée à le dire, mais au final, je finissais par le dire en le croyant. Et j'ai aussi décidé de croire dans le regard qu'il avait sur moi. Et ce n'était pas fait du jour au lendemain, et ça a vraiment été une lutte où, en fait, je lisais tous les soirs. Parfois, la première fois, j'ai fait pendant au moins une heure. Je lisais le Ésaïe 43, qui dit... Ainsi, je parle maintenant à l'Éternel qui t'a créé. Là, c'est dit au Jacob, mais je lisais au Anmin. qui t'a créé au Anmin, celui qui t'a formé au Anmin. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne t'embraseront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et je le répétais. Au début, je n'y croyais pas. Mais à force de répéter, ça a fini par s'ancrer en moi. Et j'ai fini par vraiment le dire avec foi et croire que j'avais du prix, qu'il avait donné des peuples pour moi, il avait même donné son fils carrément pour moi et... J'ai vraiment appris à croire dans le regard qu'il avait sur moi. Et ça n'a vraiment pas été facile. Et des fois, je suis tombée. Je retombe encore. et je pense que je retomberai encore. Mais la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est celle de se relever après chaque chute. Et quand je chute, et que je suis à terre, que je n'ai pas envie, je me rappelle de ce choix que j'ai pris. J'avais déclaré que rien ni personne ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu et que je m'étais positionnée dans sa bonté. J'avais vraiment décidé de croire en sa bonté. Et au final, tout est une question de positionnement, de prise de position et de persévérance dans cette prise de position. La détermination, c'est le fait de renouveler. La détermination, c'est le fait de c'est cette prise de position, de croire en la bonté de Dieu. Et la persévérance, c'est le fait de renouveler à chaque fois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque heure, cette prise de position. Et la question c'est, est-ce que je décide de subir mes épreuves, de vivre dans la sévérité de Dieu, de lui être rebelle, de me laisser abattre et de perdre la vision? Ou est-ce que je décide de demeurer dans la bonté de Dieu, de la vivre pleinement, quoi qu'il arrive, de continuer à croire en Dieu, que Dieu est bon, qu'il pourvoit à toutes choses pour moi et qu'il a mis des choses merveilleuses en moi? Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Il y aura des fois où on n'aura vraiment pas envie, où des jours où on n'aura pas la force, on ne trouvera pas la force, on sera à terre. Mais prendre position, ça demande aussi de se faire violence. Ça peut être agaçant, inconfortable, fatigant. Mais au fur et à mesure, ce ne sera plus un effort de demeurer dans la bonté de Dieu, mais ce sera un état constant. Et on le croira vraiment. Et des fois, vous arriverez à tomber. Enfin, il vous arrivera de tomber. Mais rappelez-vous que vous avez décidé de demeurer dans la bonté de Dieu. Voilà.
Merci à Tom et à Anne-Line pour ces partages. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, pour notre pays de France, ce message concernant la bonté de Dieu a besoin d'être entendu, a besoin d'être travaillé, parce que c'est la réponse, il me semble, à cette société orpheline qui a de telles souffrances et qui a besoin d'entendre un son nouveau qui consiste à apporter cette bonne nouvelle. Et il n'y a pas d'autre nouvelle que celle de proclamer la bonté du Père. Il n'y a pas de plus belle nouvelle que de proclamer sa bonté sur nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes bien souvent chahutés et malmenés par rapport à ça pour nos propres vies. Parce que si l'ennemi, quelque part, eh bien, nous fait douter de ce que nous sommes, si l'ennemi arrive à nous faire trébucher, à nous faire tomber et à nous maintenir dans un état de paralysie, eh bien, quelque part, il a tout gagné. C'est la raison pour laquelle, en tant que responsable d'église, mais aussi responsable de jeunesse, je vois régulièrement des jeunes qui ont du mal avec cette bonté-là, cette bonté de Dieu. On voit à travers les épreuves de la vie que beaucoup d'entre eux sont malmenés dans leur identité et se réfugient dans toutes sortes d'autres choses. Parce qu'il y a une quête. Une quête d'identité, il y a une quête de sens, il y a une quête de Dieu. Et combien nous voyons que nous avons besoin de revenir à l'essentiel qui est de se replacer sous le regard bienveillant du Père. Le message de la paternité de Dieu n'est pas nouveau en soi. Moi-même, lorsque j'avais 15, 20 ans, je l'entendais déjà, il était prêché avec force et conviction. Mais je crois qu'il arrive actuellement avec une nouvelle force, une nouvelle puissance, parce qu'il se rattache également au combat spirituel, à l'intercession et à la prière. Et c'est en cela que Dieu nous interpelle pour que nous puissions aussi, les uns et les autres, être pleinement ancrés dans sa bonté. Pierre Kanga a l'habitude d'illustrer, alors je ne sais pas si vous connaissez Pierre Kanga, c'est un ministère également du réseau Nouvelle Connexion et Héritage, et qui partage sur le cœur du Père très souvent et qui illustre la bonté de Dieu bien souvent avec une chaise. Et il dit que finalement, très souvent, eh bien, nous sommes positionnés dans une certaine forme de jugement, de sévérité. Mais que l'appel de Dieu est de pouvoir monter et être positionné dans sa bonté. Lorsque je suis positionné dans la bonté du Père, alors je vois les choses telles que lui les voit. Lorsque je suis positionné dans la bonté du Père, eh bien alors mes circonstances ne sont plus vues à travers les lunettes de ma frustration, de ma désillusion, de mon espoir déçu, mais mes circonstances sont vues telles que lui les voit, et c'est lui qui me donne la force de retrouver une voie. Lorsque je suis dans la sévérité, dans le jugement, eh bien, je reviens au centre de ma propre vie. Et la question qu'on se pose bien souvent, c'est de se dire, mais finalement, qu'avons-nous fait ? Est-ce que nous avons rajouté Dieu à notre vie, nous permettant ainsi de mieux vivre cette vie et de vivre les circonstances de cette vie ? Ou est-ce que nous avons fait de Dieu notre vie ? Est-ce que je l'ai rajouté à ma vie ou est-ce qu'il est ma vie ? Et je crois qu'il y a une étape, en tout cas pour nous aujourd'hui, à franchir, de prendre conscience que nous n'avons pas simplement rajouté Dieu à notre vie. Bien sûr, nous avons répondu à son appel, mais Dieu nous a fait rentrer dans son histoire. Et c'est l'histoire de sa bonté. C'est l'histoire de son amour. Il nous a greffés à lui, il nous a appelés. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a choisis. Toi, suis-moi. Monte avec moi, afin que tu puisses être placé, vous siéger dans les lieux célestes. Ça, c'est notre positionnement, c'est dans Éphésiens 1er, pour voir les choses telles que lui les voit. Lorsque je suis en bas, eh bien, je regarde à mes manquements, je regarde à mes échecs, je regarde à tout ce que j'ai raté, je me recentre sur moi-même, comme l'a dit Tom, je me replie sur moi-même. J'ai envie de me sentir connecté aux autres, mais je n'y parviens pas. J'ai envie de me connecter à Dieu, mais je n'y parviens pas. Je me disqualifie, je reste sur la touche. Mais se repentir, c'est aussi prendre conscience qu'il y a un appel à monter, à être renouvelé, quand cela a été rappelé ce matin, à être renouvelé dans nos pensées, à être renouvelé dans notre intelligence. Ça, c'est l'œuvre également du salut. C'est ce texte de Romains 12 que vous connaissez bien, qui nous parle d'offrir nos vies en sacrifice vivant afin de discerner aussi quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite, et afin de laisser le Saint-Esprit venir renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, afin que nous puissions discerner sa volonté. Ce processus-là de transformation est quelque chose que nous sommes invités à continuer à accueillir chaque jour. Chaque jour, l'appel de Dieu, c'est choisis la vie. Parce que chaque jour, je ne sais pas vous, mais parfois moi-même, au matin, avant même que j'ai mis un pied par terre, j'ai une pensée qui vient et qui tenterait de vouloir me dire « reste au lit ». Combien il est facile pour nous d'être bloqués dans ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Soit par rapport à ce que nous avons mal fait hier, soit par rapport à ce que nous créons pour demain. Et de ce fait, nous ne vivons plus l'instant présent. Et je crois que nous avons besoin de prendre conscience que Dieu nous éveille aujourd'hui à sa bonté pour que nous puissions vivre ici et maintenant l'instant de Dieu. Parce que lorsque je ne vis pas l'instant présent, eh bien je passe à côté bien souvent de ce que Dieu me donne de vouloir communiquer. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous appelés ici à communiquer la bonté de Dieu. Car l'Éternel nous a oints pour apporter une bonne nouvelle, pour proclamer une bonne nouvelle, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. L'Éternel nous a oints. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit là où nous en sommes aujourd'hui, ne doutons pas de notre valeur. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'identité et de valeur, ce n'est pas pour gonfler notre ego J'ai aimé ce que Tom nous a dit quant au fait que finalement nous reconnaissons que nous ne sommes rien et que c'est par sa grâce. Et c'est en cela que sa grâce prend du poids. C'est en cela que finalement notre identité s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est lui qui dit ce que nous sommes. L'humilité, c'est d'avoir un juste regard sur soi-même en disant « Je reconnais ce que je suis et par la grâce de Dieu, comme dira Paul, je suis ce que je suis et sa grâce pour moi n'a pas été vaine. » Lorsque je me positionne sur cette chaise, je me positionne avec ce que je suis aujourd'hui, mes doutes, mes questions, mes réussites, mes échecs, mes manquements, mais je me place sous son regard. Et je dis « Père, j'ai pas tout compris. » Mais là où j'en suis aujourd'hui, je décide de recevoir ton regard. Peut-être que je n'ai pas forcément la force de voler, mais je veux courir. Peut-être que j'ai plus la force de courir, mais je veux marcher. Peut-être que je n'ai plus la force de marcher, mais je veux ramper. Et vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous cette citation de Martin Luther King. Mais quand bien même je n'ai plus la force de ramper, je veux continuer à avancer parce que je sais. Je sais que je sais que je sais que tu es bon pour moi. Et que si aujourd'hui, effectivement, dans ma situation, je ne le ressens pas, je ne vais pas laisser mon ressentir me dicter ce que tu es. Parce que ta parole dit que tu es bon. Ta parole dit que je peux venir aujourd'hui goûter, sentir combien tu es bon. Parce que ta parole dit « Heureux l'homme qui trouve en toi un refuge. » Donc voilà notre positionnement en lui. Proclamer sa bonté pour notre propre vie. En soi, c'est un message tout simple. Mais dans la réalité de notre quotidien, c'est une puissance de vie. Pour nos vies, pour nos familles, pour nos communautés, pour notre ville. S'inscrire dans la bonté de Dieu. Et lorsque nous proclamons sa bonté, lorsque nous le chantons, c'est une déclaration de guerre. L'amour du Père, ce n'est pas quelque chose de mielleux, ce n'est pas quelque chose de tiède, ce n'est pas quelque chose de sans force, mais c'est puissant. C'est une épée. C'est puissant. L'amour de Dieu a le pouvoir de transformer les vies, de transformer les situations. Et lorsque je proclame cela sur ma vie, et alors je fais une déclaration de guerre contre tout ce qui voudrait me faire chuter, tout ce qui voudrait me mettre à terre. Comment vaincre le mal ? Romains 12, dernier verset, par le bien. Combien nous sommes tentés parfois, par rapport à la dureté des circonstances de la vie, de lever notre doigt et d'accuser Dieu. Combien nous sommes tentés, face aux situations que nous pouvons traverser, de pointer le doigt vers nous-mêmes en nous disant « Je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis disqualifié pour ce que Dieu veut pour moi. » Et combien nous pouvons être tentés également de pointer le doigt sur l'autre et de juger l'autre. Et lorsque nous faisons cela, eh bien nous maintenons captifs dans cette sévérité, dans cette dureté. Mais lorsque nous nous élevons dans la bonté de Dieu, alors c'est autre chose qui est appelée à jaillir de notre cœur. C'est autre chose qui est appelée à être proclamée de notre bouche. Et alors oui, lorsque je suis positionné dans sa bonté, je suis un messager de paix. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un homme, je suis une femme avec toutes ses limites, mais qui croit en un Dieu sans limite. Je suis un homme et une femme avec toutes ses questions, mais je sais en qui je crois. Et je crois que nous avons besoin, en tant qu'Église de France, eh bien, de revêtir les armes de la bonté, afin que toutes celles et ceux que nous rencontrons dans nos lieux d'engagement respectifs, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les associations dans lesquelles nous pouvons être bénévoles, que ce soit dans nos familles, nous puissions faire entendre un son du ciel sur cette terre. Il y a une nouvelle détermination qui vient, je crois, de combattre toutes les choses qui s'attachent à nous si facilement. Et pour combattre cela, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a placés dans un corps. Et ça, c'est une provision extraordinaire de la part de Dieu. C'est que je peux partager avec celles et ceux que Dieu a placés à mes côtés sur les choses qui précisément me rattrapent au quotidien. Parce que finalement, lorsqu'on est au clair ou quand on fait le point sur soi-même, on sait très bien quelles sont les choses qui sont récurrentes et qui nous rattrapent assez souvent, voire régulièrement. Et le poids que cela peut avoir sur nos vies, sur nos décisions et sur nos relations. Et l'encouragement qui est le mien, l'encouragement qui est le nôtre, c'est de pouvoir vous dire aujourd'hui que là où nous en sommes arrivés, il y a des choses que nous pouvons enclencher. Si vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de voler, qui vous empêchent de marcher, qui vous empêchent de courir ou qui vous empêcheraient même de ramper, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a placé des hommes et des femmes à vos côtés pour vous porter lorsque vous n'avez même plus la force de vous porter vous-même. Ça, c'est la provision exceptionnelle de Dieu. Parce que c'est par cela, effectivement, que la bonté de Dieu aussi se manifeste. Voyez-vous, ce qui fait la beauté de l'Église, c'est que l'Église rend visibles les attributs de Dieu. Tout ce que Tom nous a partagé, l'Église le manifeste. Et parce que tu vas venir m'encourager, parce que tu vas venir me prendre dans tes bras, parce que tu vas venir me donner une parole de vie, parce que tu vas venir me confronter sur quelque chose qui m'empêche d'avancer, alors je vais savoir d'une manière concrète que Dieu prend soin de moi aussi. Je crois que parfois nous avons tellement mystifié la vie chrétienne à une vie de piété solitaire que nous oublions parfois que la provision de Dieu aussi dans la révélation qui est la sienne passe par les relations qu'il a placées à nos côtés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas accès, bien sûr, à des temps d'intimité avec le Père, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, et il le faut. Mais il y a tellement de choses que Dieu révèle sur sa nature, sur ce qu'il est, qui passent par les relations qu'il a placées à nos côtés. C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis faible, je sais que je peux trouver un frère, trouver une sœur et partager mon cœur, partager là où j'en suis, dans un climat de vérité, dans un climat de transparence, dans une vulnérabilité. Parce que lorsque je suis vulnérable avec les choses qui m'empêchent d'avancer, sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur de perdre une position, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, j'enclenche une dynamique dans ma vie qui va me donner et d'être propulsé plus loin dans ma destinée. Mais dès lors que je crains pour ma réputation, pour mon image, dès lors que je crois que finalement je ne devrais pas en être là aujourd'hui parce que je suis chrétien depuis peut-être 30 ans, c'est là où il y a un danger, voyez-vous. C'est comme si à un moment donné on ne s'autorisait plus à être vulnérable. C'est comme si à un moment donné, on ne s'autorisait peut-être plus à être honnête avec nous-mêmes et avec les autres. Mais c'est précisément là où Dieu nous attend aussi. Parce que c'est là aussi que Dieu veut manifester sa bonté envers nous. J'aimerais nous encourager ce matin, à travers tout ce qui a été partagé par Anne-Lyne et Tom, à prendre conscience qu'il y a un appel de la part du Père à être positionné dans sa bonté. Alors que je me positionne dans sa bonté, alors que je me positionne dans sa bonté, Dieu se révèle, Dieu me parle. Le choix qui est le mien, c'est simplement de décider de le faire. Et c'est en cela que j'aime dire que le Saint-Esprit est un gentleman, il ne nous forcera jamais à monter sur cette chaise. Mais il y a cette invitation, viens. Goûte, sens combien je suis bon pour toi. Et alors que tu te tiens sur la hauteur de ma bonté, eh bien, je veux te révéler ce que je vois. Je veux te dire que ce ne sont ni tes réussites, ni tes échecs qui dictent ce que tu es, mais mon regard sur ta vie, qui dans les deux cas ne change pas. C'est son regard sur notre vie qui nous amène à prendre de la hauteur, à nous confier en l'Éternel, à renouveler nos forces et à prendre notre envol comme l'aigle. Donc il y a une invitation à nous placer sous son regard ce matin. Et j'aimerais simplement que nous puissions prendre un temps de déclaration, si c'est possible, un temps d'affirmation. Il y a des choses qui, lorsque nous les déclarons, sont, comme je le disais tout à l'heure, de vraies déclarations de guerre. Il y a des choses que nous pouvons penser, réfléchir, mais je crois qu'il y a des temps où nous avons besoin aussi de proclamer des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles d'espérance. Et je dirais presque, peu importe ce que nous ressentons précisément à cet instant présent, mais là où j'en suis aujourd'hui, je me lève et je me positionne sous son regard, sous la bonté du Père, et je proclame qui il est pour moi. Et je proclame que ses promesses pour ma vie tiendront bon. Si elles tardent, comme nous le dit le texte d'Habacuc, si elles tardent, ne fléchis pas, car au temps venu, elle s'accomplira certainement. Au temps convenu, elle s'accomplira parfaitement. Il y a des situations que vous traversez qui n'ont pas encore vu, ou peut-être sont toujours des situations d'attente. Ce matin, j'aimerais vous inviter. Si vous avez laissé la place à la frustration, à l'impatience, au doute, j'aimerais ce matin vous inviter à vous positionner sous son regard et à vous placer sous son regard et à déclarer dans cette situation, je crois que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Lorsque je suis positionné sous sa bonté, sous son regard, alors Dieu vient et Dieu guérit. Dieu vient trouver le chemin de notre cœur. Il nous parle parce que nous sommes ouverts pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Lorsque je suis positionné parfois sous cette dureté, sur cette sévérité, sur ce jugement, bien Dieu vient nous trouver aussi pour que nous puissions monter avec lui. Mais quel que soit l'état de nos situations, quel que soit l'état de nos vies, quel que soit le parcours, je vois en tant que témoin combien lorsque on fait le choix d'être positionné dans sa bonté, Dieu vient, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu libère. C'est ce qu'il a fait dans la vie aussi d'Anne-Lyne et dans la vie de tellement de personnes. Et la joie est restaurée, la paix est restaurée, la vie de l'esprit est amplifiée. Ça ne résoudra peut-être pas toutes les situations du jour au lendemain, mais par contre, ma vision va être renouvelée et mon espérance va être fortifiée. Je vais simplement prier pour conclure. Et j'aimerais que, si vous le souhaitez, bien sûr, nous puissions vivre un temps d'affirmation et de déclaration ensemble. Père, je te remercie pour ta présence en ce lieu, ta présence dans nos vies, pour la manifestation de ton esprit maintenant. Père, nous sommes conscients que c'est par ton esprit que nous pouvons nous positionner en toi. Tu connais chacune de nos situations, chacune de nos vies. Et nous voulons déclarer sur nos situations et sur nos vies que tu es bon. J'aimerais nous inviter à nous engager ce matin aussi, à être positionnés dans cette bonté. L'amour qui est le lien de la perfection, c'est notre ciment, c'est ce qui nous fait avancer ensemble en tant que communauté, en tant qu'Église. Et cet engagement, eh bien, nous sommes conscients que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu, comme a dit André tout à l'heure. C'est lui qui le fait. Et j'aimerais, alors que nous concluons maintenant, que nous puissions, pour celles et ceux qui le souhaitent, quant au fait de rester positionnés et d'avancer ensemble dans cette bonté de Dieu, et que vraiment nous puissions nous laisser surprendre, parce que je crois que dans la bonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a des profondeurs non encore explorées. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement des choses qui nous dépassent bien souvent par rapport à ce que nous pourrions même nous en comprendre. Mais si nous souhaitons vivre cette vie, vous encourager, en tout cas nous encourager à nous lever ensemble. Et je vais prier afin de sceller ce temps. Père, alors que nous nous tenons ensemble devant toi, nous déclarons que nous ne cesserons, en tant que communauté, de pratiquer le bien, de faire le bien, de proclamer ta bonté, de proclamer qui tu es. Car ta parole nous dit, si nous ne relâchons pas, alors nous moissonnerons au temps convenable. C'est la raison pour laquelle, en tant que communauté, ce matin, nous nous tenons devant toi, devant ton trône, et nous déclarons sur nos vies que nous nous unissons ensemble dans ce positionnement, dans ta bonté, et que nous ne relâcherons pas. Et parce que tu as fait de nous une famille, parce que tu as fait de nous un corps, alors c'est ensemble que nous voulons nous tenir sur cette bonté. Et nous déclarons ce matin que c'est toi la source de notre détermination. C'est toi la source de notre persévérance. Et nous déclarons que nous ne relâcherons pas. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les intimidations, quel que soit ce qui est venu dans le passé, qui vient peut-être encore aujourd'hui dans nos vies, qui viendra demain, nous croyons que nous bâtissons sur le roc. Tu es notre rocher, tu es notre roc, tu es notre refuge, tu es notre abri. Et nous déclarons que nous sommes heureux car nous avons placé notre confiance en toi. C'est la raison pour laquelle nous regardons l'avenir avec espérance. C'est la raison pour laquelle nous regardons l'avenir avec joie. Parce que nous sommes conscients que tu vas nous transformer. Nous sommes conscients que tu vas nous bouleverser par ton esprit. Que tu vas élargir nos horizons. Que tu vas nous donner de nouveaux territoires. Et qu'avec toi, nous ferons des exploits. Dans ta bonté, nous ferons des exploits. Dans ta bonté, nous verrons des malade guéri. Dans ta bonté, nous verrons des hommes et des femmes bouleversés par l'amour du Père. Par ta bonté, nous déclarons que des fils et des filles reviendront dans la maison du Père pour découvrir ton cœur, pour partager ta vie et pour être à leur tour des ambassadeurs de vie, des ambassadeurs de paix. Et je déclare sur ce lieu que ce sera un lieu d'envoi, que Dieu va multiplier dans ce lieu, qu'il va envoyer de ce lieu comme des flèches sur des endroits ciblés, dans des domaines précis. Je sais qu'il y a les familles qui sont au cœur même de la vision que vous portez. J'aimerais vraiment vous encourager à persévérer dans la vision que Dieu vous a donnée, à approfondir encore tout ce que Dieu a déposé dans vos cœurs et à vous laisser élargir encore dans la diversité des choses que Dieu va vous donner de vivre et d'expérimenter. Mais allons profondément ensemble dans la découverte de cette bonté du Père et que nous puissions manifester toujours plus les caractères, les attributs du Père. Père, je prie particulièrement pour toutes les relations au sein de cette assemblée, afin qu'il y ait une saison de rafraîchissement, une saison de renouvellement, une saison où tu vas faire croître, Seigneur, à travers cette intimité qui va être tellement approfondie que cela va donner naissance à de nouvelles choses, naissance à de nouveaux projets. Père, merci pour la fertilité qu'il y a au sein de cette assemblée. Et je proclame, Seigneur, sur tout ce qui peut être encore stérile dans nos vies, qu'un temps de fécondité vient par ton esprit et qu'à cet instant même, il y a la vie qui est libérée. Que toute stérilité maintenant, dans le nom de Jésus, soit guérie. Quand je parle de stérilité dans les projets. Je proclame qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la fécondation du ciel maintenant dans les cœurs. Et si vous ressentez cela, j'aimerais simplement vous demander de lever la main pour recevoir maintenant ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a quelque chose de nouveau que le Saint-Esprit est en train de susciter à cet instant même dans les cœurs. Il y a comme s'il y avait des situations qui allaient être transformées, bouleversées, parce que le Saint-Esprit maintenant vient et il y a une graine, il y a une semence. Saint-Esprit, nous accueillons cette semence. Semence de vie, semence d'espérance, semence de gloire. Recevez maintenant.
J'avais une parole à vous donner pour votre assemblée. J'ai fait un rêve la nuit dernière. C'était la première nuit où on a dormi ici. Et j'ai été intimidé dans ce rêve. Et je me suis dit, c'est pour moi. Durant la journée, je vais être intimidé. Pardon. Et durant la journée, aucune intimidation. Bon. Et en fait, alors que je vis ce temps de culte ici, je ressens que c'est pour vous. Et le Seigneur vous met au courant de ce que l'ennemi est en train de faire. Et je ressens qu'il y a vraiment des intimidations qui vont venir sur les révélations que vous avez reçues dans votre église. Et il y a cette parole qu'on a citée tout à l'heure, que Xavier a citée, de Martin Luther King qui dit « Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, tu rampes. » Et je crois que c'est bon pour les révélations que vous avez reçues, de garder le cap dans les révélations que Dieu vous a données dans cette assemblée. Parce que l'ennemi va vouloir vous intimider dans les nouvelles saisons que vous allez traverser. Et je ressens que, voilà, vous allez subir des intimidations, il va falloir garder le cap dans ce que vous avez reçu et persévérer. Même si vous devez ramper dans ces révélations-là, gardez le cap parce que c'est vraiment de Dieu. Et c'est ce qu'il a donné de particulier à cette assemblée. Voilà.
Je voudrais juste demander à Tom de venir. Que Dieu nous a donné cette assemblée au bout de 8 ans. Il y a une épée qui s'est présentée ici. Une épée de Damoclès, le jugement de Dieu. Dieu a voulu juger cette église. Parce qu'on n'a pas oublié. 98, ça a éclaté. On s'est repenti pendant 5 semaines d'affilée. Dieu a dit, c'est bon. Pendant 1 an, on a vécu les affres de la mort. Au bout 1 an, on en est sorti. Et 1 an après, ou 2 ans, je ne sais plus, peu importe, il y a eu un groupe de jeunesse ici, et tu as une vision. Tu peux la donner.
Oui, effectivement, j'avais eu une vision d'une main qui venait du ciel. Je m'en souviens plus très bien, mais j'avais eu cette vision d'une main. Voilà, le Seigneur pose sa main, il bénit, et une main de puissante, rassurante. Ouais.
C'était la main de Dieu. On a changé de camp. Dieu était nouveau, notre ami. Et ça nous a conforté qu'on était dans la bonne direction. Et maintenant, la nouvelle génération doit apprendre qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'on peut l'avoir contre nous. Mais si nous sommes fidèles, nous avons cette main qui nous est tendue. À nous de la saisir et de continuer à marcher. Et alors, nous aurons de grandes victoires. Amen. Restons fidèles. Restons fidèles à sa parole. Et le Seigneur sera avec nous. Et quand il est avec nous, qui sera contre nous? Merci pour cette vision qui atteste que nous devons continuer dans sa parole. Amen. Merci.